Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Bonjour, bonjour, vous êtes sur RDIWA 107.5. La pensée des peuples sonde au fond de nous-mêmes ce qui nous rend mélancoliques. La mélancolie, état de tristesse vague accompagné de rêverie. Amertume.
Amertume.
Abattement.
Abattement.
Chagrin.
Chagrin.
Dépression.
Dépression.
Déprime.
Déprime.
Grisaille.
Grisaille.
Morosité.
Morosité.
Spleen.
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 Tristesse.
Tristesse.
Nostalgie.
Nostalgie.
Grisaille.
Grisaille.
Chagrin.
Chagrin.
Spleen.
Spleen.
Grisaille.
Grisaille.
À la mélancolie de Jean-François Collin d'Arleville. Aliment et poison d'une âme trop sensible. Toi, sans qui le bonheur me serait impossible. Tendre mélancolie, ah, viens me consoler. Viens calmer les tourments de ma sombre retraite. Et mêle une douceur secrète à ces pleurs que je sens couler. Loin de moi, vain plaisir que le monde idolâtre. Ces rires insensés, cette gaieté folâtre, semblent braver ma peine et ne font que l'aigrir. J'aime mieux mes soupirs, ma tristesse, mes larmes. Ma langueur a pour moi des charmes. Je souffre et je ne veux point guérir. Fidèle au malheur comme à la solitude, nourrissez de mon cœur la longue inquiétude. Souvenir qui touchait, même en nous déchirant, que je dise à ma dernière heure, on me plaint, on m'aime, on me pleure, que je souris en expirant.
Un sang pleure, un saut de l'ange. La senteur d'une peau d'orange et la beauté d'une encolie. Tout se mêle, se constitue. Comme mes peines et mon sourire. À l'appel, quelques souvenirs qui peu à peu se substituent. Pour mes colères qui me penchent. Quand les galères me poussent à bout. Derrière mes clairs, tout mon dégoût. Quand je racle un peu ma gorge. À l'heure où je m'interroge, j'écris malgré les plaies. Dos à mes doutes, je trace ma route à la craie. Pour le soleil qui se lève. Quand l'amour, la mort se mêle. Un peu d'or sous mes semelles. Quand je cours après ce rêve. Pour mes proches, mon entourage, je vous aime. À en mourir, j'ai manqué de courage, un peu lâche pour vous le dire. Si mon cœur a sa raison, ma raison ne l'ignore plus. Chaque mot un kilo de plomb, chaque rêve un kilo de plume. Pour le vide que je surplombe, ne réclame que le silence. Au calme je m'élance, et comme la nuit je tombe. Pour l'avenir que j'ai su lire dans la pureté de ses yeux. Quand elle m'a dit à deux c'est mieux, j'ai trouvé ma raison de vivre. Pour mon moral, mon humeur et mon humour à deux balles. L'air débile et le teint pâle quand je déballe mes prayeurs. Pour ma fidèle solitude qui par habitude me console. Me consume, me consomme entre voyelles et consonnes. Pour moi et mon autre, oui toi mon frère de l'ombre. De mon démon je suis l'hôte, fier de l'être quand tout me démonte. Inculte et ivre pour ma jeunesse méprisée. Qu'ils viennent pas nous les briser, on n'a pas demandé à vivre. Dieu créa l'homme à son image était-il non-voyant. Quand je regarde autour de moi, j'ai du mal à être croyant. Pour ma fierté, mon orgueil, un rempart aux yeux des autres. Je ne ferai pas de vieux sauts, à part dans mon cercueil. D'un coup de lame, j'ai vu mon âme, mes larmes en mille se fendre. Pas du genre à me morfondre, j'ai toujours appris à feindre.
Je suis triste. Quand je suis triste, je me sens comme une fleur qui a besoin d'être arrosée, un arc-en-ciel qui a perdu ses couleurs, un clown qui n'arrive pas à sourire. Quand je suis triste, je m'allonge sur le lit, je ne parle à personne. Je me cache chez moi. Le roi malheureux de Vinciane Villemier. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un petit château aux murs gris et à l'allure poussiéreuse. Les hautes murailles privaient l'intérieur de la lumière du soleil. Et depuis de longues années, les rires et la bonne humeur étaient interdits. Le roi vivait seul, assis sur son trône, dans l'ombre. Il passait ses journées à couvrir ses gens de cris et d'insultes. Tant et si bien que beaucoup d'entre eux, pour oublier, se tuaient au travail ou étaient emportés par la maladie. Sa méchanceté était née le jour où sa jeune épouse s'était enfuie avec son amant, jeune homme de la campagne avec qui elle avait passé sa tendre enfance. Elle avait beaucoup pleuré le jour où le roi l'avait élue, sa future femme. On raconte même que de ses larmes était née la mère d'Occident, à laquelle elles avaient donné son goût salé, qui pique les yeux de quiconque s'y aventure. Elle s'en était allée, triste, dans sa belle robe blanche de mariée. Et malgré son destin privilégié, elle avait des traits tirés et les yeux humides. Son jeune ami, cependant, avait glissé dans sa main un petit bout de tissu, juste avant que celle-ci quitte le village dans son carrosse royal. Le jour du mariage avait été le grand événement du pays. Tout le monde souriait et chantait la gloire des jeunes mariés. La liesse avait pourtant été de courte durée, car au crépuscule, profitant de l'obscurité, la reine s'était enfuie. Depuis ce triste jour, une haine destructrice s'était emparée du roi. Elle avait rongé son cœur et transformé son visage. On n'y lisait alors plus que ce tourment de rage et ce voile de souffrance qui firent de lui le tyran le plus craint des alentours. Et chaque jour, les malheureux habitants du royaume souffraient que cette blessure empoisonnée ne trouve remède. Car depuis tant d'années qu'elle rongeait le roi, elle l'avait transformé en un monstre d'égoïsme et de méchanceté. Un jour, pourtant, un vieux magicien arriva au village, avec ses habits trempés par la pluie et son dos brisé de fatigue. Il venait de loin et ne connaissait pas l'histoire du château. Mais dès qu'il entra dans le fort, à la vue des visages ternes et tristes des habitants, il comprit. Il comprit tout de suite que régnait entre ses murs un grand malheur, car il sentait dans l'air ces courants d'énergie négative que créent la souffrance, la peur et la mauvaise humeur. Il alla directement au château, entra dans la demeure du roi et fut presque renversé d'y ressentir tant de haine. On lui indiqua que le roi se reposait, qu'il ne fallait surtout pas le déranger, mais qu'on pouvait le trouver dans sa chambre si on était assez fou pour y aller. Le vieux magicien n'avait pas peur, alors il monta les hautes marches de l'escalier central et poussa la porte de l'habitation du roi, sans même frapper. Il trouva le roi accoudé à la fenêtre, le regard vide et posé sur l'horizon. Ce dernier se retourna, surpris d'abord, excédé ensuite d'être dérangé. « Que veux-tu, vieux fou? Ne t'a-t-on pas dit que je ne voulais aucune visite? Sors d'ici immédiatement, » vociféra le roi. Mais le vieux magicien n'en fit rien. Il s'assit sur un tabouret qui se trouvait près du lit. « Je ne te gênerai pas longtemps. Je viens juste t'offrir quelque chose. Assieds-toi et accorde-moi 5 minutes, que je puisse t'expliquer. » Le roi, comprenant bien que, pour se débarrasser de cet étranger au plus vite, il fallait l'écouter, s'assit sur son lit et fit signe au magicien de continuer. « J'ai entendu parler de ta peine en parcourant les rues, et encore plus de ta mauvaise humeur. J'ai là quelque chose qui pourrait t'intéresser, car il te rendrait ta bonté et ta joie d'antan. Accepte-le et porte-le si tu veux, je ne t'oblige à rien. » Le vieux magicien sortit de son baluchon une couronne d'or qui brillait de 1000 feux. Couverte de pierres précieuses et de fines gravures, qui éblouirent instantanément le roi. Il l'accepta sans hésitation, et la plaça tout de suite sur sa tête. Après un coup d'œil dans son miroir, il remercia le vieux magicien par politesse et le pria de sortir. À partir de ce jour, sa souffrance ne fit qu'augmenter. Il ne se séparait ni de sa couronne, ni de ses mauvaises habitudes. Et à cause de sa précipitation à se débarrasser du magicien, il avait, sans le savoir, perdu un conseil très important, crucial même. La couronne était magique, et elle ne le rendrait bon que si ce dernier faisait des efforts de son côté, pour être plus gentil. C'est pourquoi à chaque mot méchant, chaque insulte ou chaque excès de mauvaise humeur, La couronne se resserrait autour de la tête du roi, en s'accompagnant d'une douleur légère, mais présente. Il passa comme ça 7 semaines. En ne fournissant aucun effort et en se réveillant chaque jour plus mal que la veille. Au premier matin de la 7e semaine, il souffrait tellement qu'il ne put quitter son lit. Il gardait pourtant sa couronne, qu'il pensait toujours bénéfique pour son image, mais ses joues étaient creusées, sa peau livide et ses yeux opaques. Le vieux magicien, qui avait compris que le roi faisait fausse route, décida d'envoyer sa jeune fille à son chevet, afin qu'elle lui contât des histoires pour lui faire comprendre d'où venait sa souffrance. Le roi refusa tout d'abord de laisser la jeune fille entrer, mais à bout de force il céda. Elle s'assit près de lui, à même le sol, et commença son histoire. C'était l'histoire d'un roi, jeune et magnifique, qui s'éprenait d'une jeune fille dont le cœur appartenait déjà à un autre. Il se mourait d'amour pour elle et décida de l'épouser, quand bien même il savait que celle-ci en aimait un autre. Pourtant, le mariage ne changea rien au sentiment de la jeune épouse. Et elle s'enfuit le soir même pour retrouver l'homme de sa vie. Le roi eut le cœur brisé, mais il aimait bien trop la jeune fille pour se venger et préféra ressasser sa haine et sa douleur en cachette, ne montrant à ses gens qu'un visage souriant et indifférent. Pourtant, la souffrance le rongeait de l'intérieur et très vite elle déborda. Il se mit à la déverser sur les malheureuses personnes qui partageaient sa vie, faisant naître la souffrance dans le cœur de ces dernières. Il ne se rendait pas compte à quel point sa souffrance le changeait, car il était aveuglé par sa peine. Il n'avait pas réussi à l'extérioriser. Il n'avait pas guéri la plaie qui maintenant s'était infectée. La jeune fille du vieux magicien n'avait pas fini son histoire, mais le roi, captivé par son récit, était en larmes. Des rivières de larmes inondaient ses joues. Et secrètement, elles emportaient avec elles le poison qui avait rongé le cœur du roi pendant tout ce temps. Quand la dernière larme eut séché, le roi ouvrit ses bras, prit une grande inspiration et murmura « Merci ». La couronne, prise au dépourvu, relâcha un peu son étreinte, invitant cette douce sensation d'apaisement dans le corps meurtri du roi. Il la sentit, s'en étonna tout d'abord, et soudain sauta hors de son lit. Il prit la jeune fille dans ses bras, l'embrassa sur les 2 joues. Après un instant, une nouvelle vague de douceur, il en fut ravi. Il courut hors de sa chambre, ouvrit toutes les fenêtres du château qu'il avait gardées jusque-là fermées, embrassa les valets et les servantes qu'il trouvait sur son chemin. À chaque pas, il faisait une pause, attendait que la couronne le félicite et reprenait sa course. Il sortit à l'air libre, respira l'air pur à plein poumon et expira avec force les dernières ombres qui noircissaient son cœur. La couronne, satisfaite et apaisée, se relâcha complètement. Elle était si ample, d'un coup, qu'elle glissa de la tête du roi. Les gens le regardaient abasourdis et ne savaient que dire. « Seigneur, qu'avez-vous? Est-ce la folie qui de nouveau s'est emparée de vous ?» demanda craintive une vieille paysanne. Tous la regardèrent effrayée, le roi allait sûrement la punir pour cet affront. « Non, ma jolie, c'est la vie qui m'a repris, » tonitrua le roi avec allégresse. « L'ombre a trop longtemps habité mon cœur, il a besoin de lumière, il veut réapprendre à aimer. »
C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Apparemment, tu m'as fait mal à vie. Né chez leur annexe, j'ai qu'un ami. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie. Je n'ai plus la gaule, les jours de fête, j'ai trop de pardon dans mon programme. J'aurais dû naître déterminé, tant l'autre joue trop pour mon âme. Et nique sa mère, timidité. On me donne mes tailles que quand t'aboies, je saurai jamais où je finirai. C'est sur la vie, à plus d'imagination que moi. Rétroviseur comme maladie, faudrait que j'arrête la nostalgie. Mélancolie, mélancolie. J'ai un problème avec la norme comme un connard. Bosser tout le temps pour espérer. Maison de banlieue et la bagnole garée devant. Mélancolie, mélancolie. C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, je t'ai dit. Mélancolie, mélancolie. Apparemment tu m'as fait mal à vie. Né chez leur annexe, j'ai qu'un ami. Mélancolie, mélancolie. Mélancolie, mélancolie.
toutes nos têtes, on nous prévient depuis 50 ans, tu tombes dedans, c'était trop bête pour la planète, ça ira mieux le jour où t'arrêteras de vouloir vivre dans une pub, oui c'est tentant, c'est leur travail, on se parle mal, on se regarde mal, comment ça tient, comment ça marche, ça tourne en rond, mais c'est pour quand le vrai pétage de plomb, mélancolie, mélancolie, jamais le passé ne fait crédit, je veux plus entendre au bon vieux temps, vas-y dis-le si c'était mieux avant, vas-y saute maintenant, mélancolie, mélancolie, c'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie. Je m'ennuie avec les gens trop beaux, j't'ai mélancolie, mélancolie. Apparemment tu m'as fait mal à vie. Né chez les rednecks, j'ai qu'un aimé.
La mélancolie est l'illustre compagnon de la beauté. Elle l'est si bien que je ne peux concevoir aucune beauté qui ne porte en elle sa tristesse. Charles Baudelaire. La mélancolie est un crépuscule, la souffrance s'y fond dans une sombre joie. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Victor Hugo. Tu sais ce que c'est la mélancolie ? Tu as déjà vu une éclipse ? Eh bien, c'est ça, la lune qui se glisse devant le cœur, et le cœur qui ne donne plus sa lumière. La nuit en plein jour. La mélancolie, c'est doux et noir. Christian Bobin. La mélancolie est le miroir d'une joie, dans la tristesse, maquillée d'un regard de caresse. Descréa. La mélancolie se lève chaque matin, une minute avant moi. Elle est comme quelqu'un qui me fait de l'ombre, debout, entre le jour et moi. Je dois pour m'éveiller la repousser sans ménagement. La mélancolie aime la mort, d'amour profond. Cela fait des années que je lutte avec ses profondeurs, que je m'efforce de limiter leur influence, sans y parvenir toujours. Christian Bobin. La vraie mélancolie, c'est quand la vie vous manque, alors que vous l'avez encore. Jacques d'Or. Romano Guardini. La mélancolie est quelque chose de trop douloureux. Elle s'insinue trop profondément jusqu'aux racines de l'existence humaine pour qu'il nous soit permis de l'abandonner au psychiatre. Si nous nous interrogeons ici sur son sens, nous disons déjà par là même, elle représente pour nous un phénomène d'ordre non psychologique ou psychiatrique, mais spirituel, que nous croyons en étroit rapport avec les profondeurs de notre nature humaine. La mélancolie est une tonalité intérieure qui vibre d'un bout à l'autre de son existence.
Émouvant, je voulais toucher ton cœur, mais t'es touché que par ton petit chat. Y'aura pas de thème, n'en aie pas peur, y'a que ma voix, une trompette qui chiale un châle et que je vise à la bonne. J'aurai qu'une piste de l'album si les larmes glissent, fils, c'est que c'est green à la prod. Je m'entête avec l'artiste, me demande pas si je mène la belle vie. Ici dans les côtes, je m'épuise comme les triplettes de Belleville. Ma belle fille sera toujours belle. Tu perds la femme, tu perds les gosses, c'est corsé comme un corset grosse. Gros tombe toujours, je peine. On a scellé mon cœur, c'est plus qu'une boîte qui me sert à vivre. Quand je bois, parfois je le ravive. Quand je me déboîte, je me sers à vide. Certains seraient ravis de la prendre. Prends mon troisième doigt. Vétus, t'es le bâtiment que j'arpente. J'apprends à casser le toit. Chut, on s'entend pas. J'pars à la scène, j'rentre en face. J'monte sur scène et j'ressens le bat. Car la France saigne, s'entend pas. De plus en plus de tendances sales, de vestes salies, de malines, de suçage, de pites, de traîtresses, de salive. J'écris pour moi, pour chez la doute. Toi, t'es chez la douce, moi. J'pense qu'à me barrer puisqu'elle nous chez la toute. J'écris ce texte dans une tempête de lave. J'en pète de l'âme. La vie me blesse, j'rappe ma tristesse en trompette de larmes. Ma belle fille sera toujours belle. J'écris pour moi, pour chez la doute. J'en pète de l'âme, la vie me blesse, je rappe ma tristesse en trompette de larmes.
Le trompettiste joue, il fait couler des larmes. Elle navigue sous les joues, on se traite comme la sève dans l'arbre. Puis la scène devient floue, floutée par le bar. Qui t'a parlé des fous, autant écouté par le bar. Le trompettiste joue, il fait couler des larmes. Elle navigue sous les joues, on se traite comme la sève dans l'arbre. Puis la scène devient floue, floutée par le bar. Qui t'a parlé des fous, autant écouté par le bar.
Je refais le topo pour les faibles. Parfois c'est trop beau, trop beau, trop beau pour être vrai. Je refais le topo pour les faibles. Parfois c'est trop beau, trop beau, trop beau pour être vrai.
J'ai pris une tartine dans la gueule, là j'en ai deux dans le bide. Si tu veux faire partie du club, passe à l'accueil, apprends les nœuds dans le vide. J'dors toute la journée, j'fais des rêves de bâtard. La nuit j'rappe le sud de mon jouet, j'peux pas pioncer si les bâtards. Brûlantes sont les patates glaciales, sont les pensées que j'ai. Mon ADN, mon mascara, ouais j'idolâtre ce que pensait Gel. J'ramène un doute, mes sens, c'est bon qu'à me blottir dans la cape. T'écoutes les sons d'un homme qui souffre, qui veut pas sortir de la case. Avis de tempête, ils ont cru quoi que j'étais un tapis d'entrée. Si je rappe la vie que ça t'embête, c'est que t'as trop de vices à combler. Non t'es pas fort, c'est juste ton ego qui t'empêche de sortir. T'as plus que la forme, tu touches le fond dans l'eau, la pêche est sordide. J'emmerde vos jugements, vos messes basses. Pour colmater ce pas, tu dans ma bulle, au moins je suis seul dans mon espace. J'écris texte dans une tempête de lave, j'en pète de l'âme, je rappe ma tristesse en trompette de larmes. Le trompettiste joue, il fait couler des larmes. Elle navigue sous les joues, on se traite comme la sève dans l'arbre. Puis la scène devient floue, floutée par le bar. Qui t'a parlé des fous, autant égoutté par le bas. Le trompettiste joue, il fait couler des larmes. Elle navigue sous les joues, on se traite comme la sève dans l'arbre. Puis la scène devient floue, floutée par le bar. Qui t'a parlé des fous, autant égoutté par le bas.
Je refais le topo pour les faibles. Parfois c'est trop beau, trop beau, trop beau pour être vrai. Je refais le topo pour les faibles. Parfois c'est trop beau, trop beau, trop beau pour être vrai.
L'arbre de tristesse de Sylvie Dolly. Il était une fois un pays si parfait qu'on le nommait le royaume de l'harmonie. Le roi vivait dans un somptueux palais au cœur d'une capitale magnifique, entouré de remparts. Et son obsession était le bonheur de son peuple. Ce souverain était si riche et si généreux qu'il allouait, tous les mois, une importante somme d'argent à chaque foyer. Les jardins des villas regorgeaient d'oiseaux et de plantes, de patios et de fontaines. On y organisait plusieurs fois par an des concours de chants et des joutes poétiques. Les conflits entre voisins n'existaient pas, car le roi veillait à ne léser personne. Mais depuis quelque temps, certains de ses sujets souffraient d'une noire tristesse, dont ils avaient honte et n'osaient parler. N'était-il pas scandaleux d'avoir mal à l'âme alors que d'autres peuples mouraient de faim ou dans la violence des guerres? De plus en plus souvent, à la nuit tombée, des citadins quittaient la ville pour prendre le chemin de la forêt voisine. Ils y entendaient l'appel d'un arbre maléfique et, irrésistiblement attirés, s'y pendaient. Seuls les plus tristes pouvaient comprendre les plaintes et les sanglots de l'arbre. En ce pays où le bonheur était obligatoire, seuls les plus tristes pouvaient comprendre les plaintes et les sanglots de l'arbre, en écho à leur propre désarroi. On le nomma l'arbre de tristesse. On savait qu'il se trouvait dans la forêt, mais on ignorait son emplacement exact. Dans ce pays où le bonheur était obligatoire, le roi sentit son pouvoir menacé. Désormais, tous les soirs, il fit fermer à double tour les portes de la ville, afin que personne n'en sorte. Tout citoyen qui violerait le couvre-feu serait passible d'une lourde peine. Mais dans cette cité du bonheur, il y avait aussi des enfants. Le petit Jacques avait 2 ans et une immense joie de vivre. Il ne parlait pas encore très bien, mais découvrait le monde avec émerveillement. Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le goût des fruits, la fraîcheur de l'eau. Les courses effrénées dans le jardin de ses parents, le soleil, les animaux familiers, tout l'enchantait. Ses petites mains potelées ne savaient encore que caresser, saisir et déchirer. Il croyait, sans parvenir encore à le formuler, en mots, que les papillons étaient une partie des fleurs. Lorsqu'il touchait un papillon posé sur l'une d'elles, il s'imaginait que ses doigts avaient le pouvoir de donner vie aux pétales et riait aux éclats en les voyant s'envoler. Un soir, qu'il se promenait au-delà des remparts en compagnie de son père, le couvre-feu sonna. Selon son habitude, dans son langage de bébé, Jacques parlait aux papillons et tentait de les attraper. Il avait cueilli une fleur mauve, dont il tenait fermement la tige, en espérant qu'un papillon coloré s'y poserait. Son père, qui se hâtait de franchir les remparts avant la fermeture des portes, ne vit pas que son enfant avait cessé de le suivre, et poursuivait ce qu'il croyait être une fleur volante. Les portes se refermèrent et Jacques se retrouva hors de l'enceinte de la ville. L'enfant n'avait peur de rien, choyé, aimé, protégé. Il ne connaissait ni le danger, ni la souffrance, ni la mort. Il ne fut même pas effrayé en découvrant l'absence de son père, mais se sentit encore plus libre. Il courut vers la forêt, qu'il n'avait jamais explorée, parce qu'il savait confusément, d'après les dires des adultes, que ce lieu était dangereux. Soudain, il entendit les pleurs et les gémissements de l'arbre de tristesse, qui, comme chaque nuit, appelait les désespérés. Alors, pour la première fois de sa vie, le petit Jacques eut peur. Il se mit à pleurer et appela son père. Mais celui-ci ne pouvait l'entendre. Même terrorisé, Jacques avait vaguement conscience qu'il devait retourner chez lui. Il courut vers les remparts, mais l'obscurité recouvrit si vite la forêt qu'il dut revenir sur ses pas. Les pleurs devenaient de plus en plus déchirants à mesure qu'il se rapprochait de l'arbre. C'était comme des sanglots d'un enfant. Puis Jacques vit distinctement se détacher de l'arbre la silhouette d'un petit garçon à peine plus grand que lui. Sa terreur fit place à de la curiosité. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Était-ce un être vivant ou un dessin ? Jacques eut une certitude, c'était un malheureux. Alors, pour le consoler, il lui tendit la fleur qu'il avait cueillie devant les remparts, et qu'il tenait toujours fermement dans sa petite main. « Pas pleurer, dit-il à cet insolite compagnon, cadeau pour toi. » L'autre enfant prit la fleur et cessa de pleurer. Puis il disparut. Alors le petit Jacques, cédant à une immense fatigue, s'allongea et s'endormit au pied de l'arbre. Le lendemain, son père, accompagné de la garde royale, le retrouva encore endormi. Il le prit dans ses bras et l'étouffa presque de baisers. Jacques ne comprenait pas pourquoi son père pleurait. On ne retrouva pas l'arbre de tristesse. Il avait fait place à un arbuste mauve dont les fleurs étaient semblables à celles que Jacques avait offertes au mystérieux enfant. Les suicides cessèrent du jour au lendemain dans le royaume. Jamais plus les désespérés n'entendirent l'irrésistible appel de l'arbre. Le roi voulut remercier Jacques et lui proposa les plus beaux jouets qu'il put trouver. Mais l'enfant les refusa tous. Un peu irrité, le roi lui demanda ce qu'il désirait. « Ouvrez les portes, jouez avec le petit garçon, » répondit Jacques. Le roi l'exauça. Désormais, les portes de la ville demeurèrent toujours ouvertes. Chacun redevint libre de se déplacer dans le pays de jour comme de nuit. Ce fut à cette époque que les émigrants, venus du royaume voisin, affluèrent dans la ville. Fuyant leur pays qu'une terrible guerre mettait à feu et à sang, ils se réfugièrent au royaume d'Harmonie, où l'argent et la nourriture abondaient. Alors, oubliant pour toujours leur mélancolie, les sujets du roi trouvèrent une raison de vivre en partageant avec eux leurs richesses. Mélancolie de Auguste Ramus. Rêverie dans un bois. Triste et seul, on se plaît au chant mélancolique. On s'assied pour rêver sous le sol pleureur. On gémit sur soi-même, et les chants énergiques ne trouvent plus d'écho dans l'âme du rêveur. Moi, lorsque le regret de mes jeunes années m'arrache un long soupir, je voudrais, mais en vain, rendre un peu de fraîcheur à tant de fleurs fanées, à tant de sentiments qui dorment dans mon sein. Adieu donc mon enfance et mes jours d'allégresse. Au foyer paternel, je ne vais plus m'asseoir. Je ne suis plus l'enfant qu'une mère caresse. Plus de douces chansons à mon chevet le soir. Plus de fraîches amours, plus de larmes de joie. Plus de transport de l'âme à son premier éveil. Jeunesse, adieu. Le temps a dévoré sa proie. Plus de vastes horizons, mais des cieux sans soleil. Que me font désormais ces champs et ces vallées? Ce bois que j'aimais tant vers le déclin du jour. Quand nous marchions à deux dans ces sombres allées, où nous causions longtemps d'avenir et d'amour. Que m'importent ces bois où le chêne splendide voit tomber sans regret son feuillage jauni. Mai lui rend la chaleur, puis la terre est humide, et la sève remonte à son front dégarni. Ô silence, rougis de pleurer sur toi-même, de mêler tes accents à ces lugubres voix, qui chantent la douleur, exhalent le blasphème, cœur plaintif que le siècle entendit tant de fois.
Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps.
Chaque jour une nouvelle cascade, j'aurais dû demander une doublure. Y'a que dans mes cauchemars que je cours plus. J'ai beaucoup moins de rêves, j'suis beaucoup plus vieux. Proche de mes démons, j'pourrais presque leur donner des prénoms. J'me détruis, j'sais même plus si c'est ma halle. Ma morale et mes désirs s'en mêlent. Comme mes idoles préférées, j'ai fin de scène. Fin d'alcool, fin de gloire, fin de sexe. J'idéalise trop les rockstars, parfois j'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27. J'viens d'enchaîner ces interviews dans la même journée, j'sais même plus comment je m'appelle. Cœur défectueux, je survis sans. Aucun rêve ne sera jamais suffisant. Si j'ai plus d'étoiles dans les yeux, c'est pour mieux voir venir le vide. Tu veux savoir comment je vis?
Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps.
Saut de l'ange dans le système, ensemble. On a maquillé la tristesse, ensemble. On a pris la drogue anti-stress, ensemble. Toujours mal à l'aise dans les fêtes, dans les bars. C'est pas mieux quand je m'enferme sans les parts. Je donne même pas les quelques nouvelles qu'on me demande, seul. Rideau noir dans l'appartement, seul. Je veux pas voir qu'on est demain, seul. Je suis devenu fort en psycho, en rassurant ma mère dans la cuisine jusqu'à 4h. Elle me parle toujours des mêmes histoires de famille atroce. Les connais tout déjà par cœur. Je reste comme une personne addict. Ce monde est insonnable. Moi le suicide me sauvera-t-il? Je partirai avec la même tête que Kitano dans Sonatine.
Plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans la machine, plus de larmes dans le corps, plus de larmes dans le corps.
De la mélancolie de Romano Guardini. C'est effroyable cette impuissance spirituelle, totale dont je souffre ces temps-ci. Par cela même qu'elle est accouplée à une nostalgie consumante, presque un rut de l'esprit, et pourtant si dépourvue de contours que je ne sais même pas ce qui me manque. L'existence entière me remplit d'angoisse, depuis le moindre moucheron jusqu'au mystère de l'incarnation. Elle est tout entière inexplicable, pour moi, surtout moi-même. L'existence entière est infectée pour moi, surtout moi-même. Grande est ma souffrance sans limite. Nul ne la connaît, sinon Dieu dans le ciel. Il ne veut pas me consoler. Nul ne peut me consoler, sinon Dieu dans le ciel. Et il ne veut pas avoir pitié. Mélancolie, pesanteur de l'âme, un fardeau pèse sur l'homme et l'accable, au point qu'il s'affaisse, que la tension de ses membres et de ses organes se relâche, que les sens, les instincts, les représentations, les pensées se paralysent, que la volonté se détend, que le désir et le goût de travailler, de lutter, diminuent d'intensité. Une entrave intérieure venue de l'âme pèse sur tout ce qui, d'ordinaire, jaillit, vibre et agit librement. La spontanéité de la décision, la capacité de tracer des contours nets et vigoureux, de porter sur les choses la main hardie qui leur donne forme, tout cela tourne en fatigue, en indifférence. L'homme n'est plus maître de la vie. Il ne participe plus à la marche en avant,
qui le presse. Les événements s'enchevêtrent autour de lui. Son regard ne sait plus les pénétrer. Il n'est plus capable de dominer un événement de sa vie. La tâche se dresse devant lui comme une montagne impossible à gravir. Les conséquences est que la mélancolie, fils et semblable, cherche à se cacher, aspire à la solitude. L'âme vulnérable s'efforce de s'écarter de ce qui la blesse. Pour elle-même, mais aussi, et ce trait est important dans la psychologie du mélancolique, dont les dispositions sont souvent très profondément altruistes, pour ne pas faire de peine aux autres. N'ayant pas confiance en lui-même, il redoute d'être vu, discuté. Il craint que les autres ne percent à jour sa propre misère. Mais cette impulsion vient d'une région encore plus profonde. C'est le désir de plonger dans les profondeurs. Ce désir de se cacher le pousse à se tenir à l'écart des autres hommes. Le mélancolique ne se sent vraiment à l'aise que dans la solitude. Personne autant que lui n'a besoin de silence. Le silence est pour lui comme une présence. Une atmosphère spirituelle qui lui permet de respirer, qui l'apaise et le met à l'abri. Nous avons parlé de l'aspect pénible, négatif de la souffrance et de l'élément destructeur dans la mélancolie. Mais déjà, partout, nous avons entrevu de la grandeur. Nous avons senti monter de cette détresse un élément précieux et noble. Cette pesanteur dont nous parlions, c'est le point d'où nous sommes partis pour pénétrer plus profondément vers le centre du phénomène. Donne à toute activité une densité particulière, une profondeur propre. En présence d'un être, on devine facilement si ses racines touchent à la mélancolie. Une existence qui s'épanouit dans la clarté cause de la joie. Mais qui connaît cet autre domaine ne peut finalement vivre qu'avec des êtres et des pensées qui sont en contact avec ses profondeurs. La grandeur, la vraie, l'absolue grandeur, ne peut exister sans cette pression, qui seule confère à toute chose leur pleine densité et qui porte les forces de l'être à leur véritable tension. Sans cette tristesse en quelque sorte congénitale, ce que Dante nomme la grande tristeza, qui ne naît pas d'une circonstance particulière, mais de l'existence même. Et d'autre part, cette pesanteur, cette sombre tristesse, porte parfois un fruit infiniment précieux, que la pression se relâche, que cette prison intérieure s'ouvre. Monte alors cette facilité de vivre, cette impression de planer, d'être porté, qu'éprouve tout l'être. Cette transparence des choses et de l'existence, cette clarté du regard et cette infaillibilité. Ceci nous permet de nous approcher de la valeur centrale de la mélancolie. Dans sa substance la plus intime, elle est nostalgie de l'amour sous toutes ses formes, à tous ses degrés, de la sensualité la plus élémentaire jusqu'à l'amour suprême de l'esprit. Enfants agités, anxieux, tristes, de Henning Koller. Dans cet ouvrage, l'auteur, conseiller en éducation et fondateur d'un institut pour enfants en difficulté, fait apparaître que les troubles qui se manifestent chez les enfants, agitation, anxiété, tristesse, sont les signes extérieurs de troubles de l'âme. L'enfant se sent indésirable, délaissé, exclu. Il ne trouve pas sa place dans le monde parce que les sens de base, ce sont les sens de la vie, du toucher, du mouvement et de l'équilibre, qui lui permettraient de s'orienter, ne sont pas bien développés. Il s'agit donc pour le guérir et remédier à sa détresse, d'aider ses sens de base, ancrés dans le corps, et de réchauffer le corps et l'âme par des mesures thérapeutiques et pédagogiques, que l'auteur indique. Mais surtout, il fait appel à un travail en profondeur des parents, pour qu'ils comprennent ce qui se passe en leur enfant. Qu'ils cherchent par eux-mêmes, à l'aide de ces données, les mesures appropriées à son cas particulier. En se reliant à l'être supérieur de l'enfant, à l'ange, aux forces de la nuit, et par un travail d'auto-éducation, l'éducateur aidera l'enfant à trouver sa place dans le monde des hommes.
chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude. Je voudrais des rires qui éclatent en étincelles, des rêves qui virevoltent et racontent des poèmes, et je serai plus douce que la plus belle de toutes les joies. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie.
Mélancolie,
chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie.
Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude.
Jamais je n'entendrai tous ces mots qui m'éloignent des lumières de la vie. Je narguerai le doute malicieux et j'entendrai l'espoir murmurer ces doux mots, oh mélancolie. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie.
Merci pour votre écoute sur la douce, intrigante, douloureuse et profonde mélancolie.